Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Auditrices, auditeurs de la fréquence de la paix, heureux de vous retrouver encore une fois dans cet espace dédié à l'actualité économique. Votre rendez-vous hebdomadaire Economia qui continue avec M. Faustin Onozon à parler des notions en rapport avec les taux d'échange des monnaies et un sujet dont nous parlons depuis quelques semaines. Nous retrouverons notre expert en intelligence économique dans moins de 5 minutes. Mais avant, vous aurez des informations sur certains termes économiques que vous entendrez dans cette émission et c'est dans le lexique économique. À ne pas surtout oublier avec quoi on brise la rubrique Les tendances de la bourse vers la fin de notre rendez-vous. Bienvenue à tous.
Le lexique économique.
La monnaie.
La monnaie, c'est un moyen d'échange, un moyen de paiement et a une valeur fiable aux yeux de tous. La monnaie est également une unité de compte permettant d'établir le prix des biens et des services et elle constitue aussi une réserve de valeur. Il existe trois formes de monnaie, il faut le savoir. La monnaie métallique, donc les pièces de monnaie, la monnaie papier, les billets et la monnaie scripturale. C'est l'argent enregistré dans les comptes bancaires sous forme d'écriture. Cet argent peut à tout moment est transformé en monnaie fiduciaire ou monnaie liquide, hein, si vous voulez.
Le taux de change d'une monnaie.
Le taux d'échange d'une monnaie, c'est le coût de cette devise par rapport à une autre. On parle aussi de la parité d'une monnaie.
La dépréciation d'une monnaie.
La dépréciation d'une monnaie représente aussi la baisse de la valeur d'une devise par rapport à une autre. Elle fait plus particulièrement référence donc aux devises ayant un taux de change flottant. Il s'agit d'un système selon lequel la valeur d'une devise est définie par le marché du Forex. Le Forex est le marché sur lequel les devises dites convertibles sont échangées l'une contre l'autre à des taux de change qui varient en permanence.
Regard sur la gestion économique nationale.
Vous connaissez cette rubrique, toujours avec Faustin Onozon qui se prête à nos questions. Il est encore avec nous aujourd'hui pour nous intéresser à un sujet économique. Le sujet économique aujourd'hui, c'est de comprendre un peu ce mécanisme de fixation des taux d'échange des monnaies. Nous sommes avec cet économiste qui est notre invité encore aujourd'hui. Monsieur Faustin Onozon, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, le sujet que nous avons choisi, c'est de nous intéresser au taux d'échange des monnaies. Déjà, avant de parler des taux d'échange, c'est quoi d'abord une monnaie ?
La monnaie, c'est un moyen qui vous permet d'effectuer des transactions financières au sein d'un pays ou alors entre un pays et l'étranger.
Alors, chaque pays, en principe, ou un groupe de pays ont leur monnaie et des fois, on utilise ces monnaies dans d'autres espaces, dans d'autres pays. C'est ce qui amène à parler du taux d'échange parce qu'on arrive dans le pays X. Voilà, on est obligé de convertir cela. C'est un peu cela qu'on doit comprendre par le taux d'échange.
Oui, je crois que vous avez déjà donné une bonne partie de cette définition. Le taux d'échange, en fait, c'est l'expression d'une monnaie en termes d'une autre. On dirait par exemple que 1 euro égale 655,957 francs CFA. Et c'est, on a exprimé l'euro en termes de CFA ou le CFA en termes d'euro. Et c'est ça le taux de change. On pourrait dire d'une manière un peu plus académique que c'est un prix. C'est le prix d'une devise.
Voilà, vous connaissez cette rubrique à mes auditeurs, rubrique qui n'est plus à présenter dans le cadre de cette émission d'Economia. Regard sur la gestion de l'économie nationale et nous continuons à parler de taux d'échange, les taux d'échange d'une monnaie. Et aujourd'hui, nous nous intéressons donc à cette notion de taux d'échange et les relations que nous avons avec les autres monnaies. Monsieur Faustin Onozon avec nous. Monsieur Faustin Onozon, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Faustin Onozon, on précise, est économiste et spécialiste en intelligence économique et qui nous éclaire sur cette notion des taux d'échange. Pour commencer, Monsieur Faustin Onozon, quand dit-on qu'une monnaie est une monnaie forte ?
C'est une monnaie qui est acceptée par tout le monde. Ça, c'est déjà un élément de référence. Lorsque votre monnaie est acceptée par tout le monde, elle devient une devise reconnue au plan international. Il y a des monnaies qui ne sortent pas. Vous le savez autant que moi.
Oui, bien
Mais
sûr.
Le dollar, par exemple, il sort. Et partout où vous trouvez, vous pouvez l'utiliser. L'euro est une monnaie qui sort aussi. Même le yen japonais. Les pays les plus éloquents en matière de gestion de leur politique économique et financière ont des monnaies qui sont acceptées à travers le monde entier.
Justement, parlons des monnaies qui ne sortent pas. C'est une volonté des politiques ou c'est parce que l'économie n'est pas assez solide pour attirer, le regard extérieur ?
Ben, ça peut être les deux, mais généralement, c'est une volonté des politiques. Et vous savez que lorsque vous faites sortir votre monnaie, cela aura un impact, j'allais même dire négatif, hein, sur votre balance des paiements. Je prends le cas du franc CFA. Tous ceux qui vont détenir des francs CFA, eh ben, iront au niveau de notre banque centrale pour pouvoir se faire payer dans la monnaie qu'ils veulent. Ça peut être en dollars, ça peut être en yen japonais, ça peut être en euros. Et c'est nous qui perdons, j'allais dire... nos devises. Or, celles-ci sont censées garantir la valeur externe de notre monnaie. Mm-hmm. Elles sont importantes en matière de processus de création monétaire. Mm-hmm. C'est pourquoi il est bon de gérer correctement cette monnaie-là qui, en passant, est aussi une devise. Et si on demande à ce qu'elle ne sorte pas, mais le tout se fait par le biais des banques centrales.
Tout se fait par le biais des banques centrales, mais on peut se poser la question, pourquoi le franc CFA, lorsqu'on se retrouve aux États-Unis, hein, en France, en Europe, pourquoi on n'accepte pas qu'on paye un produit pourquoi? Ça part de quel principe?
Mais on l'a fait par le passé. Et on a vu qu'on a réalisé, je ne vais pas dire des pertes, mais on avait une balance des paiements déséquilibrée qui était mise à rude épreuve à tout moment. Parce qu'on ne pouvait pas mener véritablement une politique économique et financière. Or, vous savez que si vous n'avez pas une bonne balance des paiements, c'est que vous ne pouvez pas avoir un bon processus de création monétaire. Et lorsque votre monnaie vient de partout, aujourd'hui, on va au niveau de votre banque centrale, on dit que vous devez, et que telle ou telle personne, ou telle structure, ou telle ou telle institution a fait des transactions financières avec votre monnaie. Mais il faut payer, il faut payer. Et là, le suivi peut ne pas être éloquent. Et cela peut avoir un impact négatif sur la gestion de votre balance de paiement extérieur. Donc, ce n'est pas à dessein. C'est, on a vu, on a essayé. Nos pays sont passés par là et nos pays ont réalisé des pertes énormes. Il n'y avait pas une bonne politique de gestion du niveau de notre balance de paiement, notamment déjà la première ligne. On la mettait à contribution. Le solde monétaire, il devenait positif au lieu de négatif. Et dans cette situation, il est tout à fait normal qu'on demande aux banques centrales de ne plus payer le franc CFA détenu à l'étranger.
Tout cela doit être guidé par une politique commune, donc un contrôle. Justement, en quoi consiste le contrôle en ce qui concerne les taux d'échange? Le contrôle se situe à quel niveau et qu'est-ce qu'on fait concrètement?
Ben, dans tous les États du monde, il existe un contrôle des transactions financières avec l'étranger. Et ce contrôle passe déjà par une réglementation d'échange. Et cette réglementation permet, par exemple, dans le cadre de telle ou telle activité plus ou moins spécifique, de voir quels sont les fonds qui peuvent sortir de notre pays ou alors d'un pays qui est dans une union quelconque. Voilà, donc ce contrôle est tellement important. S'il n'y a pas de contrôle, il faut dire que la monnaie va sortir de toutes parts d'ailleurs. Et cela peut avoir un impact négatif sur la gestion de nos balances de paiement extérieurs.
Alors, justement, existe-t-il un document de référence au niveau des États, plus particulièrement l'UEMOA, la zone dans laquelle la Côte d'Ivoire est, justement en matière de taux d'échange de monnaie?
Oui, que ce soit au niveau de l'UEMOA ou alors au niveau de la BCE, même au niveau de certains pays qui ont leur propre monnaie ou alors qui utilisent une monnaie commune, il y a un document qu'on appelle la réglementation d'échange. Selon qu'on se trouve dans tel ou tel pays, ce document a le même nom, mais seulement on lui attribue certains paramètres spécifiques.
La réglementation d'échange.
D'échange.
Donc voilà. Il y a une loi concernant, il y a une règle en matière.
Oh oui, il y a une règle en la matière. Et généralement, cette réglementation est gérée par la Banque centrale des États qui appartiennent à une union quelconque. Voilà, c'est-à-dire l'État, dans le cadre des pays dont la monnaie, par exemple, arrimée à une autre monnaie, c'est-à-dire que cette politique économique et financière en matière de gestion des taux d'échange est faite principalement par les banques centrales. Donc, ce sont les banques centrales qui mettent sur pied ce document qui est utilisé dans le cadre de la gestion des transactions financières à l'étranger par les structures de l'État. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a le Trésor public qui fait office de contrôle, qui fait ce contrôle d'échange là. Lorsque vous voulez faire une transaction financière avec l'étranger, ben vous vous rendez au ministère de l'Économie et des Finances, qui vous dirait d'aller au Trésor public, et là-bas vous levez ce qu'on appelle une autorisation d'échange. Et avec cette autorisation, vous pouvez faire les transactions financières avec l'étranger. C'est-à-dire, vous pouvez par exemple importer une marchandise dont le montant est transcrit aussi bien en franc CFA qu'en devise sur l'autorisation d'échange. Si les devises existent, mais vous faites votre transaction. Mais si les devises n'existent pas, vous ne ferez pas la transaction. Et ça, c'est sûr. Hein. Lorsque vous n'avez pas assez de devises, mais cela donne droit à ce qu'on appelle une pénurie.
Pour être concret, on peut se retrouver donc au trésor et puis on dit on veut avoir la monnaie chinoise. Si le pays n'en a pas assez, on est en pénurie là,
non.
Pour ce cas.
Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le pays, mais la monnaie chinoise, elle s'achète sur le marché.
Mais concrètement, moi, monsieur Comé, je veux aller en Chine, donc j'aurai besoin, par exemple, de la monnaie chinoise. Bon, je viens au trésor, j'obtiens la monnaie chinoise avant de voyager. Ou bien, comment ça se fait? Expliquez-nous un peu le mécanisme.
C'est le yuan chinois que vous voulez. Si c'est une monnaie qui est convertible, vous l'inscrivez sur votre autorisation d'échange. Cette autorisation qui sera déchargée par le trésor public passera par la banque centrale. Et c'est à la banque centrale que surtout nous avons assuré net, c'est-à-dire nos devises. Des devises de l'État de Côte d'Ivoire.
Oui, c'est ça.
Et c'est là-bas qu'on donne cette autorisation d'effectuer la transaction financière avec l'étranger.
Mais pourquoi généralement, il faut donner une autorisation? On va se poser les questions simplement. J'ai mon argent, pourquoi il faut que j'ai l'autorisation, je dis, des autorités financières avant de faire une transaction?
Parce que d'abord, votre argent ne sort pas. Votre argent reste ici, dans votre pays. Et donc, c'est là l'important du change. Donc, votre monnaie, on va l'exprimer en termes d'une autre monnaie et on va aller rechercher cette monnaie. Et puis, la transaction, ça dépend. Celui qui se trouve de l'autre côté et qui vous vend, par exemple, la marchandise, peut accepter, par exemple, des effets payés en dollars. La plupart du temps, c'est en dollars ou en euros. Ce sont les principales monnaies qui sont acceptées à travers le monde entier. Même en Chine, généralement, c'est le dollar que les gens acceptent. Bon, rarement... les gens acceptent de se faire payer en monnaie chinoise, par exemple.
En tout cas, on note que c'est tout un processus, cette transaction financière, notamment en matière de change. Mais il y a aussi ce que vous appelez les comptes rendus d'activité par intermédiaire, donc habilité. Qu'est-ce que c'est?
Ah oui, c'est les banques et puis les autres structures qui font office des banques, telles que les bureaux de change. Voilà, ce sont des structures qui font qui font en fait toutes les transactions financières avec l'étranger pour le compte des ménages, des entreprises et même de l'État. Et ces structures rendent compte, et disons, à l'administration centrale et puis à la banque centrale, par exemple. Et donc, ce sont des comptes rendus qui sont faits régulièrement et par ces structures-là au niveau des institutions nationales.
Vous avez parlé de la réglementation en ce qui concerne l'échange-là, mais est-ce que si on veut contourner, c'est une réglementation, il y a des mécanismes de sanctions éventuellement?
Ah oui, on ne peut pas, on ne devrait même pas la contourner. Et lorsque vous contournez la réglementation d'échange, il va sans dire que vous allez supporter des sanctions, et qui sont d'ailleurs très importantes. Il y a des lois à travers le monde entier qui sont prises dans ce sens-là. Pour celui qui veut contourner la réglementation qui a été mise sur pied pour la gestion de nos politiques économiques et financières. Vous savez que la monnaie, lorsqu'elle est mal gérée, c'est l'économie qui tombe en ruine. C'est pourquoi il est important de gérer la monnaie d'une manière cohérente. Et il faut la gérer de près. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut avoir avec soi sa monnaie ou bien la monnaie dans son ensemble. Voilà un peu comment cela se passe.
Ce qui me turlupine un peu, c'est cette approche, de cette technique de laisser fluctuer sa monnaie à un certain moment ou, par exemple, décider quand on est dans une situation complexe de laisser baisser sa monnaie, la remonter. Ce système-là est beaucoup utilisé par les pays anglophones. Pourquoi ce choix?
Je le disais là, que lorsqu'une monnaie, par exemple, est demandée, est très demandée, lorsque la demande est supérieure à l'offre, il va sans dire qu'il y a une fluctuation et la monnaie va devenir encore un peu plus forte. Et lorsqu'elle devient un peu plus forte, il y a des avantages, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients.
C'est quoi, deux fois, on voit le dollar qui avait commencé à dépasser même l'euro.
Oui.
À un certain moment.
Oui, quand c'est comme ça, vous vendez moins. Vous vendez moins. Alors vous devez prendre certaines dispositions au plan interne. Par exemple, voir dans quelle mesure vos entreprises pourraient certainement baisser le coût de production.
Mais pourquoi on vend moins?
On est arrimé, par exemple, à l'euro. Et si l'euro a des difficultés avec les autres monnaies, mais cela aura des répercussions sur nous.
Bon.
Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on aura la même politique en matière de gestion de nos transactions financières avec l'étranger. Ce seront des répercussions tout à fait moindres par rapport au fait qu'on soit sur le marché international des devises. Là, les répercussions seraient directes. On ne pourrait même pas nous couvrir. Et ce serait un peu difficile. Mais déjà, quand on est arrimé à une autre monnaie, encore l'euro qui appartient à une zone qui est très forte, il y a une protection dont nous bénéficions de fait. C'est un peu comme ça. Alors, de l'autre côté, le processus de taux de change, où le taux de change monte, où le taux de change descend, je disais tantôt que quand votre monnaie est trop demandée, comme le dollar par exemple, ben, il y aura un processus. C'est-à-dire, le dollar va augmenter. Or, lorsque votre monnaie augmente, lorsqu'elle devient un peu plus chère, c'est que on ne pourra pas importer vos produits comme par le passé. Ils deviennent nettement un peu plus chers. Et donc, il faut faire en sorte que ce taux de change baisse, voilà, qu'il revienne à la normale, qu'il revienne à une parité, par exemple. Voilà un peu comment est-ce qu'on procède.
On va terminer par un point. C'est un peu ce choix que font certains pays de faire en sorte que leur monnaie soit, disons, un taux de change très faible pour rendre compétitifs leurs produits. On en connaît, hein, des pays comme le Japon et bien d'autres qui ont des monnaies assez faibles, mais qui sont des puissances économiques.
Oui, parce que ces pays à l'intérieur, généralement, le prix des ventes de leur production, ce prix n'est pas si élevé que ça. Mais ces pays-là gagnent en compétitivité.
Oui.
Et c'est à l'étranger que ces pays font beaucoup de devises, qui arrivent à avoir beaucoup de devises. Et puis, jouer aussi sur la faiblesse de sa monnaie a un impact positif, hein, en matière de gestion de vos exportations. Lorsque le niveau, le taux n'est pas si élevé que ça, bien, on vient prendre vos produits, on vient acheter vos produits d'une manière assez vertigineuse si les produits sont très bons. Or, quand votre monnaie est très forte, ben vous vendez moins à l'étranger.
Oui, parce que votre produit devient cher.
Voilà.
En tout cas, on en apprend avec vous, M. Onozon Faustin. C'est donc ce sujet, hein, sur le taux d'échange. Vous savez, on reviendra sûrement, hein, sur ces sujets dans d'autres émissions, en décortiquant, vous proposant des cas pratiques. On essayait de vous expliquer tout cela. Merci à vous, M. Onozon.
Merci, M. Koumi.
Tendance de la bourse.
Les tendances de la bourse. Nous sommes avec Kwao Brice qui nous éclaire sur ces notions de bourse. Aujourd'hui, on a décidé de nous intéresser aux produits qu'on trouve donc dans cet univers. Monsieur Kwao, bonjour.
Bonjour Monsieur Komi, bonjour à tous les auditeurs.
Alors justement, sans plus tarder, quels sont les produits qu'on trouve dans les bourses, notamment à la BRVM?
Bon, il faut dire qu'il y a plusieurs produits financiers vendus sur les marchés financiers. Il y a une longue liste de produits financiers, mais je vais m'appesantir sur les produits vendus à la BRVM. Retenez déjà actions, obligations, mais en plus, donc pour les autres bourses, certificats, varants, trucs, options et plein d'autres encore. On dit souvent que les produits financiers sont limités juste à l'imagination des financiers. Ils peuvent en créer encore et encore. Mais pour la sensibilisation, nous voulons nous focaliser sur ce que vous pouvez rencontrer concrètement à la BFM. Donc essentiellement, à la BFM, vous avez les actions et les obligations. Il y a un troisième produit, les droits, mais qui est peu actif, donc on ne va pas trop en parler. On va se focaliser sur les actions et les obligations. Donc en bourse, vous avez essentiellement à la BFM, ces deux produits-là. Action, titre de copropriété. Obligation, titre de créance. Qu'est-ce que ça veut dire? Action, titre de copropriété, ça veut dire celui qui détient l'action est copropriétaire de l'entreprise. Copropriétaire au sens littéral. Comprenez ça au sens littéral. C'est-à-dire, si vous êtes mis ensemble avec des amis pour faire un maquis ou pour acheter un taxi, vous êtes copropriétaire du taxi. C'est la même chose avec une action. Bien sûr, copropriétaire à la proportion de ce que vous avez comme action. L'action existe même par rapport à l'existence de l'entreprise. C'est-à-dire, avant que vous n'achetiez en bourse, il y avait déjà des actionnaires, sauf qu'ils ont fait leurs choses entre eux. La bourse vous a permis à vous d'avoir accès à l'entreprise. Donc, vous êtes actionnaire comme les actionnaires initiaux. Vous avez juste une part moins importante à concurrence de ce qu'ils ont bien voulu vendre. En face de ça, quand vous achetez une obligation, vous n'êtes pas copropriétaire.
Allons-y pas à pas. Intéressons-nous surtout aux actions. Il y a deux étapes. À la création de l'entreprise, des personnes décident de mettre l'argent ensemble pour créer une entité. C'est des actionnaires normaux.
Les actionnaires normaux. Le capital social est composé d'actions. Ceux qui ont mis de l'argent au départ sont les actionnaires. Ils forment le capital social. Par la suite, l'entreprise lance un plan de développement pour moderniser son infrastructure technologique, ses machines et tout ça. Et ce plan nécessite de l'argent. Donc, une partie de ces fonds a été collectée à la BFM par justement la vente d'actions.
Donc, on comprend que même si l'entreprise, vous ne l'avez pas vue naître, qu'à un moment, elle vend des actions, si vous avez la chance d'avoir ces actions, vous participez à l'Assemblée Générale chaque année comme les actionnaires initiaux.
Voilà. Quand on va faire la répartition du bénéfice, on ne va pas dire voici le bénéfice des anciens, puis voici bon, le bénéfice pour les nouveaux. Non, 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 non. Je prendrai l'exemple d'une école. Une école primaire, par exemple, a été fondée par 3 personnes. L'activité marche très bien. Et après, on veut faire la partie secondaire. Au lieu de raisonner en termes d'école primaire, en termes d'école secondaire, on raisonne en termes, je crois, de groupe scolaire. Donc, on dit, bon, il nous faut peut-être 50 millions. Nous, on avait déjà mis 30 millions pour faire l'école primaire. Donc, 50%, ça fait 80 millions. Donc, vous, en apportant les 50 millions, vous avez peut-être 60% ou, je sais pas, 50% de la nouvelle activité. On calcule. bascule. Donc, au final, il y a toujours une structure. Il n'y a pas deux structures, une pour les anciennes, une pour les nouveaux. Il y a toujours une structure qui est redimensionnée, où les nouveaux, on leur parle, les anciens, on leur parle, mais c'est le bénéfice qui est réparti entre nous.
Alors, vous êtes un analyste financier. Quels sont les avantages de détenir une action et partant, les risques aussi?
Bon, une action étant un titre de copropriété, ça suppose que si l'entité disparaît, vous perdez l'argent que vous avez investi et personne ne vous rembourse. Quand vous investissez dans un taxi qu'il brûle, personne ne vous rembourse parce que vous êtes propriétaire. Mais c'est dans le même sens quand l'entreprise a des bonnes performances, vous récupérez une partie de ces bénéfices-là qu'on verse sous la forme de dividendes. À l'opposé, le créancier, lui, il ne récupère pas les dividendes. On lui rembourse juste son argent avec l'intérêt correspondant.
Vous parlez de dividendes. Les dividendes, c'est quoi?
Les dividendes, c'est la partie du bénéfice qu'on alloue aux actionnaires comme rémunération du fait justement de leurs investissements. Ces dividendes-là ne sont pas donnés aux créanciers. Les créanciers reçoivent juste le remboursement de leur capital avec un intérêt. Donc, en raisonnant tout à l'heure sur qu'est-ce que ça apporte d'être actionnaire ou pas, c'est de dire en fait, j'ai deux possibilités. Soit je prête mon argent à la structure, soit je place mon argent dans la structure en tant que copropriétaire. Ce que j'aurai si je place, c'est une partie des bénéfices sur la vie de la structure. Vous êtes ses propriétaires, donc elle vous versera les dividendes pour autant d'années qu'elle générera de bénéfices. À côté de ça, l'action peut prendre de la valeur quand la structure a de bonnes performances. Voici ce qu'un actionnaire a quand l'affaire marche vraiment très bien.
Quand l'affaire marche très bien, il a dit, Monsieur Kouao. Monsieur Kouao, merci à vous.
Merci beaucoup.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Tous les lundis, après les journaux de 8h et 18h.